Je vous avoue que je commence cet épisode en me filmant parce que je fais du contenu sur Insta. Enfin, j'essaye. C'est pas ma cam, mais enfin, on essaye. Et du coup, c'est très déstabilisant de se filmer. Mais il va falloir que je m'habitue parce que la prochaine saison sera entièrement filmée aussi. Pour l'algo de YouTube, hein, on va pas se le cacher. Voilà. C'était la confession de ce 22 août 2023. Il est midi 51 et on est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans Un mythe en placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Alors aujourd'hui, on va faire un texte qui m'a été recommandé dans les commentaires et je remercie sincèrement et chaleureusement la personne qui m'a recommandé ce texte. Parce que ça m'a permis de redécouvrir ce bon vieux Anatole France, que j'aime bien, mais que je connais peu, au final. Donc le texte que nous allons faire, c'est tout simplement Les 7 femmes de la barbe bleue, d'Anatole France, donc qui fait partie de son recueil de contes merveilleux, et on va en discuter de cette appellation, parce que Anatole France va vraiment jouer avec les codes du conte, et le principe de réécriture. Pour l'étude de ce conte, comme d'habitude, on va procéder en plusieurs parties. D'abord, on va présenter l'auteur, puis on présentera le texte, et ensuite, on ne sera pas dans une étude habituelle, tout simplement parce que ce texte va à l'encontre de tout ce qu'on fait habituellement. On n'est pas du tout dans un conte, on n'est pas du tout dans un personnage symbolique, tout ça. Bien au contraire, on est dans la... Alors, c'est l'époque où on dirait déconstruction, moi je dirais plutôt là dans la... vraiment dans le côté destruction d'un mythe, et on va en parler brièvement de comment le mythe est détruit. Ça va être l'objet d'une première partie dans l'analyse, et la deuxième partie ce sera pourquoi détruit-on un mythe, et est-ce qu'on a besoin de ces mythes pour vivre, et pour survivre en tant que culture. Ça va être très philosophique, accrochez-vous. Donc on est parti, je vais d'abord vous présenter Anatole France. Anatole France, c'est un auteur qui est né en 1844 et qui est décédé en 1924. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été élevé par des parents issus de classes populaires moyennes, on va dire, puisque son père était cordonnier et sa mère était issue aussi d'un milieu populaire, mais je ne sais plus ce qu'elle faisait. Ce qui est très 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 intéressant, c'est que le père d'Anatole France a été analphabète jusqu'à ses 20 ans, il était donc incapable de lire ou d'écrire. Et puis, le destin l'a amené à travailler en librairie, il s'est pris de passion pour le livre et pour les histoires, il a créé sa propre librairie politique, dans laquelle même les frères Goncourt venaient, et ensuite, il a accumulé de nombreuses œuvres et de nombreux ouvrages autour de lui, et il a plongé son fils dans ce monde de librairie et de bibliothèque, et son fils va être extrêmement marqué par cela. Un, il va devenir auteur, bien évidemment, mais aussi dans ses romans, et c'est le deuxième point, il va souvent parler d'un personnage qui est le libraire, l'érudit, l'étudiant, celui qui lit, en fait, et qui se cultive. Donc on a vraiment cette grosse influence du père d'Anatole France sur Anatole France, et une influence très positive, et un peu une idée de conte de fées, en fait, de personnes qui se sont élevées à travers la culture, et est-ce qu'il y a mieux que ça, franchement. C'est mon petit côté snob intello. Bref, Anatole France, c'est un auteur extrêmement engagé, il est d'abord parnassien, et puis il va un peu se détourner de tout ça pour revenir à une littérature plus engagée, comme je vous le disais, avec des causes sociales. Il va notamment... qui vont lui tenir à cœur, pardon. Il va notamment travailler avec notre cher Émile Zola sur l'affaire Dreyfus. Il collabore vraiment, et on entend peu son nom, je trouve, dans l'affaire Dreyfus, parce que Zola, avec son J'accuse, a un peu pris toute la lumière. Mais Anatole France est là, derrière, et bien présent. Il a un poste à l'Académie française qu'il va refuser pendant 10 ans, je crois, ou 6 ans. Il refuse d'occuper ce poste parce qu'il part du principe que... L'Académie française ne fait pas honneur à la France et aux idéaux politiques qui devraient être mis en place. C'est quelqu'un résolument à gauche, Anatole France. Il rend sa Légion d'honneur quand on retire sa Légion d'honneur à Zola. Il fait partie des personnes qui ont fondé la Ligue des droits de l'homme. Et c'est lui notamment qui crée les mots xénophobe et trublion. J'aime beaucoup trublion, je ne vous le cache pas. L'œuvre d'Anatole France, c'est une œuvre qui est marquée par notamment sa richesse culturelle, hein, c'est un grand critique littéraire, Anatole France, et qui est marquée par une envie de féerie, de fantastique limite, à une époque où on écrit beaucoup de naturalisme, hein, je parlais des frères Goncourt tout à l'heure, et bien évidemment de Zola, donc qui sont les auteurs du naturalisme en France les plus connus. Lui, France, Anatole France, s'éloigne un peu de tout ça pour aller vers un registre un peu plus féerique, voire, je vous le disais, fantastique, dans des œuvres qui lui permettent d'interroger la justice sociale. Et donc, il écrit toujours avec une certaine ironie. Ses œuvres les plus connues, on a bien évidemment Les Dieux ont soif sur la Révolution française, publié en 1912. Et évidemment, J'ai une petite affection particulière pour La Révolte des anges de 1914, dans laquelle il imagine des anges tombés du ciel qui vont remettre sur le trône le juste roi, à savoir Satan. Forcément, j'aime. Ce qui veut aussi dire que nous serons amenés à reparler d'Anatole France plus tard. Donc voilà pour Anatole France, sachez que c'est aussi lui qui a servi de modèle d'homme de lettres à Proust dans La Recherche du Temps Perdu, rien que ça. Donc Anatole France, c'est un homme qui a un rayonnement considérable sur son siècle et son époque, qu'on a un peu trop oublié, et que j'espère vous allez découvrir ou redécouvrir à travers cet épisode. On va maintenant passer au texte en lui-même, qui donc s'intitule « Les sept femmes de la barbe bleue ». Dès le début du texte, Anatole France nous fait sentir que le but ici n'est pas de réécrire l'histoire, mais de montrer les problématiques qui peuvent se poser quand un conte est pris comme source de vérité. Il appelle donc dans ce texte Charles Perrault l'historien, et il essaye de déconstruire, doucement mais sûrement, tout ce qui fait que la barbe bleue est un mythe littéraire. Il nous présente donc la Barbe Bleue avec un nom, il s'appelle Bernard de Montrajoux. On nous donne aussi une époque, vers 1650, on est donc sous la Régence et on va se poursuivre sous le règne de Louis XIV, le règne personnel de Louis XIV. Et puis on est entre Compiègne et Pierrefonds, donc on a donc un cadre spatial beaucoup plus précis que ce qu'on avait auparavant. Donc qui dit cadre spatio-temporel précis dit éloignement du conte, puisque le conte, par essence, ne veut pas nous donner un cadre spatio-temporel précis, il est intemporel. Donc par ces éléments, Anatole France ramène la barbe bleue dans une idée de réalité, dans un contexte historique précis, avec lequel il peut jouer. On nous explique donc que le château de la barbe bleue a été bâti au temps gothique. On nous explique que cet homme, en fait, c'est un homme très bon, très doux, qui vit dans son château et qui cherche un peu à trouver l'amour. Il a dans son château un petit cabinet qu'on appelle le cabinet des princesses infortunées, dans lequel, en fait, il y a des peintures de mythes représentant des femmes qui ont été abusées, en fait, très clairement, et tristes. Et que les peintures sont tellement bien faites qu'on a l'impression que les femmes en sont vivantes, et que le sol est fait de porphyre, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est teinté de sang, alors que pas du tout. Donc tout de suite, on nous dit, voilà ce qui est problématique dans ce petit cabinet, c'est le réalisme des peintures, c'est la teinte du sol, mais ça n'est en aucun cas un cabinet de malheur, c'est juste une espèce d'ambiance qui a été créée, d'atmosphère, à travers l'art. Donc déjà, tout de suite, on voit le côté rationalisation, l'envie de notre ami Anatole France de réancrer son conte dans quelque chose de beaucoup plus plausible. Et puis, on va avoir une description des six premières femmes de la Barbe Bleue, avec à chaque fois une explication du lien entre ces femmes et le petit cabinet. Donc en fait, à chaque fois, il y a une explication très très plausible et rationnelle, hein. La première, par exemple, c'est que la femme s'enfuit par le cabinet parce qu'en fait, elle est une artiste de cirque, elle vit avec son ours et elle est très triste de ne plus être sur les routes, elle ne supporte plus sa vie sédentaire, donc elle part avec son ours et elle s'enfuit par le cabinet. Il y en a une autre qui retrouve tous ses amants dans le cabinet en question, qui n'arrête pas de tromper la barbe bleue, qui ne s'en rend pas compte, Et donc, elle retrouve tous ses amants dans ce cabinet, sauf que les amants entre eux le savent. Et donc, il y en a un qui vient et qui, jaloux de la trouver avec un autre amant, la tue, mais ça n'est pas la Barbe Bleue. Vous avez aussi l'idée qu'il y a une jeune femme qui s'enferme dans ce cabinet pour prier parce qu'elle se refuse à la Barbe Bleue, parce qu'en fait, elle était destinée au couvent. Et donc, il demande l'annulation du mariage et basta. Enfin, à chaque fois, il y a des explications extrêmement rationnelles et logiques. Et donc, se succèdent ces six femmes et ce qu'on se dit, c'est... Avec un regard 20e siècle, hein, début 20e, parce que c'est un texte qui a été publié en 1909, on se dit, ah tiens, pauvre Barbe Bleue, il a quand même pas de chance, ce Bernard. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Alors, avec un regard 21e siècle, et en plus, à l'époque dans laquelle on vit, on se dit aussi, mais pourquoi épouse-t-il autant de femmes d'un coup? Et bon, ces jeunes femmes n'ont pas trop leur voix au chapitre, à chaque fois qu'elle l'épouse, voilà, mais bon, elles sont toutes soit complètement folles, soit très mauvaises, hein. C'est pas du tout une histoire qui vient mettre la femme en valeur, mais alors pas du tout, parce qu'on vient réhabiliter la Barbe Bleue, et on vient dire que, en fait, ce n'est pas lui le monstre, mais ce sont ses femmes. Et puis, bien évidemment, on arrive à la septième femme. La septième femme, c'est Jeanne. Elle a une sœur aînée, Anne. Deux frères, qui sont Dragon et Mousquetaire, et une mère qui s'appelle Sidonie de l'Espoisse. Je trouve ça génial. Tous les noms sont merveilleux. Hein. Ils les trouvent... c'est vraiment super bien. La première qui s'enfuit via le petit cabinet s'appelle Colette Passage. L'autre qui est complètement alcoolique s'appelle Jeanne de la Cloche. Enfin voilà, vous avez vraiment toute une idée de jeu autour des mots, et on voit là l'ironie subtile, le rire d'Anatole France qui est merveilleux. Et elle, donc Sidonie de l'Espoisse, en gros, a deux filles et pas d'argent. Et ses deux fils, et ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Donc elle s'installe dans la région en ayant en tête qu'il y a la Barbe Bleue, que c'est un seigneur qui a beaucoup d'argent, qui est célibataire, et qui donc pourrait être la cible parfaite. Et donc elle envoie ses filles comme ça au village, le croiser, et voilà, et les filles le séduisent un peu. Et lui tombe dans le panneau, se dit « je sais pas laquelle je veux », il invite tout le monde pendant 15 jours au château, y compris un chevalier soi-disant réputé pour la chasse, qui est en fait l'amant de la cadette, Jeanne. Il invite tout le monde, il décide d'épouser Jeanne parce que c'est Jeanne qu'il préfère, parce que, bon, alors, clairement, la Barbe Bleue, on n'est pas sur le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein. Pas très malin. Alors, on fait passer ça pour de la gentillesse, de la naïveté, une certaine douceur. Pour moi, c'est juste pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, mais enfin, c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Pour moi, on est sur une Barbe Bleue très clairement stupide. Mais voilà, et donc, du coup, il l'épouse. Et toute la famille vient s'installer au château. Elle mène sa vie très joyeusement avec son amant dans le cabinet. Et ils décident ensemble de fomenter un complot, parce qu'il y a déjà plein d'histoires évidemment qui sont nées autour de la Barbe Bleue, du cabinet qui est un cabinet de malheur, autour de mille choses qui sont, mal vues par la population. Enfin, il y a toujours cette idée de, voilà, d'histoire qui naît du cancan populaire et non de faits réels. Et donc, la famille, l'Espoisse, décide de surfer un peu sur cette vague de cancan et de mythes qui se créent, en fait, hein, tout simplement. Alors là, on n'est plus sur de la légende, d'ailleurs. Et donc, décide de faire en sorte que la Barbe Bleue passe pour un ignoble meurtrier. Donc lui, il s'en va en voyage, et quand il s'en va, il donne toutes les clés, il lui dit « bon, tu vas où tu veux, mais évite le cabinet, parce que à chaque fois, il se passe des trucs horribles là-dedans, et j'ai pas envie que ça te porte la poisse. » Et donc, je suis en forme aujourd'hui. Et donc, il lui dit « non, n'y va pas, quoi, c'est un truc qui clairement porte malheur, j'ai pas envie que ça t'arrive à toi, mais après, tu fais ce que tu veux. » Bon, bien évidemment, elle y va, parce que c'est là, en fait, qu'elle retrouve tout le temps son amant. C'est là qu'il fomente le complot. Et quand il revient, elle crie au meurtre, alors que pas du tout. Et en fait, la famille débarque, tue la Barbe Bleue, s'empare de ses richesses et fin de l'histoire. Et tout le monde y croit, puisqu'il y avait eu toutes ces histoires avant. Tout le monde s'était dit, oui, en fait, vu ce qui se passe avec cet homme, ça ne peut pas être de la malchance, ça ne peut pas être la faute des femmes, le dénominateur commun, c'est cet homme, c'est lui le problème. Et donc, voilà. Et on termine l'histoire là-dessus, en fait. Donc, il vient vraiment, Anatole France, rechercher tout ce que Charles Perrault a fait, et il vient expliciter chaque point, comme ça, et donner des raisons très plausibles, très réelles. Donc, voilà. C'est quand même très intéressant comme manière de faire. Et c'est ça l'histoire. Donc ça se lit avec beaucoup de rire. Moi j'ai beaucoup ri, ou souri en tout cas. Je me suis dit, ah ouais d'accord, ok, c'est pas mal. C'est pas un texte à prendre au sérieux, pas du tout. Ça n'est absolument pas un conte, et encore moins merveilleux, et tout le recueil en fait, qu'il avait nommé conte merveilleux, hein, n'est pas du tout le cas. C'est une réécriture comme ça ironique de tous les contes. Et voilà, et Anatole France essaye un peu de se moquer de la méthode historique, il essaye un peu de revoir un peu le conte. Et c'est très très intéressant. Donc je vous conseille sa lecture, c'est très court, vraiment très court. C'est disponible sur Wikisource, donc voilà, si vous voulez aller le chercher, il est en libre accès. Et voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs pour YouTube et dans tout ce qui est description de l'épisode pour les plateformes de podcast. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà pour le résumé de l'histoire. C'est très court parce qu'on va pas, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, mais ça va nous amener à ce que fait Anatole France et pourquoi il le fait. Donc je vous ai déjà expliqué la rationalisation, il y a d'autres moments de rationalisation, notamment sur la barbe, avec une tautologie, hein. Il y a cette idée de, en fait, la barbe n'est pas bleue, elle est noire, mais elle en est tellement noire qu'elle en est devenue bleue. Enfin voilà, c'est cette idée vraiment de mythe qui naît autour de la barbe bleue. Il dit bien, il n'a pas une grosse barbe du tout comme il est représenté. Je pense notamment à la gravure de Doré que j'ai dans mon salon, ne me demandez pas pourquoi. Et il n'a pas une grosse barbe comme ça, on nous le décrit plutôt comme une ombre sur le visage en fait, une petite barbe de 3 jours et une moustache. Très dans l'air du temps, ce Bernard, très très dans l'air du temps. Et donc voilà, il y a ce côté donc rationalisation de chaque élément. Et c'est comme ça qu'il arrive en fait à dépouiller le conte de tout intérêt. C'est-à-dire que la barbe bleue n'est plus la barbe bleue, c'est un être un peu comme ça naïf que tout le monde manipule à loisir. Ça n'est plus le monstre de Perrault, loin de là, encore moins celui d'Angela Carter. Et donc, est-ce que c'est quelqu'un d'intéressant au final ? Et en fait, il y a tout un article que j'ai lu sur le sujet qui dit que l'intérêt même de la barbe bleue, c'est le fait qu'il tue ses femmes. Et c'est ça qu'on aime dans l'histoire, quoi. Bref, toute cette réflexion, toute cette rationalisation nous pousse à nous poser la question suivante. Est-ce qu'on a besoin du monstre dans nos histoires ? Pourquoi cette fascination pour le monstre ? Parce que quand Anatole France vide la barbe bleue de sa substance, à savoir de ses capacités meurtrières, de son côté inquiétant et intrigant, eh bien le conte devient une histoire un peu sordide, banale, sur laquelle on rit, mais qui n'a pas vocation à être un mythe littéraire. Ce qui reste, ce qui est ancré dans l'histoire, ce sont ces personnages sombres. Et sombre est un euphémisme. Ce sont ces personnages horribles, monstrueux, et il y a donc une fascination pour le monstre qu'on a toujours à l'époque actuelle. J'avais déjà fait ce parallèle, le parallèle entre la barbe bleue et la passion qu'on a à notre époque pour les faites entrer l'accusé et les séries sur les serial killers, enfin les tueurs en série, pardon. Comme Dahmer, bien évidemment, qui a eu un succès fou que je n'ai pas regardé parce que j'aime dormir, donc je me suis dit que non. Mais il y a une fascination pour le monstre. De la même manière qu'on a une fascination pour les escrocs, à un moment est sorti Inventing Anna, il y avait quoi d'autre ? Il y avait... la série c'est The Drop, je crois, sur la nana qui a faussé toute une entreprise en disant qu'elle pouvait faire des prises de sang minutes dans des supermarchés. Bon voilà, il y a aussi une fascination pour les escrocs qui là sont des femmes. Et il y a une fascination pour le tueur, le monstre, qui là est un homme. Et donc, pour que quelqu'un survive, pour qu'on écrive sur lui ou sur elle, il y a cette idée de destruction, quoi. Destruction physique, c'est la destruction de ces hommes, que ces hommes perpétuent en tuant, et puis d'une destruction mentale qui est perpétuée et par ces hommes et par ces femmes escrocs qui ruinent des gens. Alors j'ai un peu plus de pitié pour elles que pour les tueurs en série, bien évidemment, mais il y a une idée comme ça de manipulation constante et on a une fascination pour les manipulateurs. Et là, je pense aussi à l'engouement qu'il y avait eu pour The Tinder Swindler. Vous savez, le mec qui draguait sur Tinder et qui extorquait des fortunes à des femmes, qui s'endettaient pour lui, enfin bref. Il y a vraiment toute une fascination pour tout ce qu'il peut y avoir de plus monstrueux chez l'être humain, en partant de ce qu'il y a de pire avec le tueur en série, et en allant vers ces personnages rusés, ces personnes rusées qu'on peut apercevoir donc, dans tous ces documentaires Netflix. Netflix adore ça, hein, c'est du sensationnel, très évidemment. Mais voilà, et donc ma question est pourquoi ? Pourquoi depuis une tradition qui est quand même ancienne, hein, parce que là, Charles Perrault, on parle de 1697, pourquoi on a cette espèce de fascination pour les monstres et Anatole France le cite aussi, il cite Shakespeare avec Macbeth, qui est antérieur hein, à Perrault. Macbeth, c'est 1606, il me semble, il faudrait que je vais revérifier mes sources, mais je crois que c'est 1606, allez vérifier. Et donc il y a cette idée vraiment de on est fasciné par et Macbeth et le pire personnage dans l'histoire, Lady Macbeth, qui est cette femme rusée qui va pousser son mari à tuer Duncan et pour devenir roi. Et il y a cette idée vraiment de là encore de fascination autour de la figure monstrueuse, et là, deux figures monstrueuses, ce couple horrible qui va être hanté par ses propres agissements. Enfin, bah, c'est encore une autre histoire, ça, mais ma question, c'est vraiment, et j'aimerais réfléchir avec vous, en fait, c'est pourquoi ? Pourquoi on a besoin de la figure du monstre ? Pourquoi on se complaît à lire de telles histoires qui font peur, tout ce qui est aussi film d'horreur témoigne de cette idée de fascination autour de la peur. Et alors, les films d'horreur, il y a le côté aussi fantastique, mais il y a aussi nombre de films d'horreur avec des serial killers. Je pense à un film que moi j'avais vu qui m'avait terrifié, où je sais plus le nom, mais où il y a une femme qui babysitte, comme d'habitude, un petit garçon, donc elle s'occupe du petit garçon. Et on l'appelle et on lui fait peur, et en fait quand elle appelle les flics pour leur dire il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'appeler, franchement ça fait peur, et ils lui disent écoutez on va essayer de pister un des appels, et il la rappelle en lui disant on a pisté l'appel, ça vient de chez vous, en fait le mec est dans la maison, et là on se dit mais pourquoi ? Et même moi j'étais dans la salle de ciné, j'avais 16 ou 17 ans et je me disais mais pourquoi je suis là ? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi en fait ? Parce que ça c'est un fait divers, c'est pas un truc qui sort complètement de l'imagination, parce que quand vous regardez des trucs sur la Dame Blanche, des trucs comme ça, bon bah il y a cette fascination pour le spirituel et pour l'ésotérique où on se dit ça existe, ça existe pas, et là forcément on se pose la question, mais une fascination pour la Barbe Bleue ou une fascination pour le film d'horreur qui vous met en scène un tueur en série, c'est une fascination pour quelque chose qui peut vous arriver, quoi. La possibilité existe. Et un peu trop pour les femmes. J'ai beaucoup réfléchi en lisant ce conte d'Anatole France et en me disant « Ah oui, d'accord. » Anatole France montre tout ce qu'il y a de problématique dans le conte, bien évidemment. Alors, avec une grande ironie, hein, il faut pas le lire sérieusement parce que, bien évidemment, que la Barbe Bleue n'est pas un être aussi naïf qu'il le présente et que les femmes ne sont pas toutes aussi monstrueuses, parce que là, les rôles s'inversent. Mais il y a aussi une idée de... bah voilà, j'ai détruit votre histoire, qu'est-ce que vous en faites, quoi ? J'ai détruit vos idoles. Et d'ailleurs, il commence avec une référence au mythe solaire, parce que c'est vrai que sur la première moitié du 19e siècle, on avait pour habitude d'expliquer toutes les religions à travers le mythe solaire. En fait, toute religion était un mythe solaire, et ça, c'était quelque chose qui était né à la fin du XVIIIe siècle avec deux auteurs et très importants pour le romantisme, qui sont Charles Dupuis et Volney. Et donc, ces deux auteurs avaient écrit dans L'origine de tous les cultes et Les ruines des textes qui disaient que tout était mythe solaire. Et donc Barbe Bleue dit, enfin Anatole France dit que Barbe Bleue est encore un mythe solaire, enfin qu'on l'a vu comme tel et que c'est faux en fait, qu'il faut arrêter avec ça. Mais donc en fait, en déconstruisant l'idée d'un mythe solaire, il déconstruit aussi dès le début l'idée de mythe tout court. J'ai l'impression qu'en fait il nous montre ça, qu'il y a un moment il faut arrêter et qu'on s'encombre avec des histoires qui sont problématiques en fait. Alors c'est ma lecture et c'est une lecture a posteriori, c'est un texte qui est publié, je vous le redis, en 1909, nous sommes en 2023, bien évidemment qu'on ne lit plus de la même manière, mais j'ai trouvé l'entreprise très très intéressante et assez novatrice, hein. On est au début du XXe siècle et on voit l'impact de ce siècle naissant sur les auteurs qui commencent déjà à émerger comme ça. On sort du XIXe siècle féerique et fantastique dans lequel on se replongeait dans le folklore avec délectation pour aller vers un XXe siècle beaucoup plus pragmatique en fait. Cette lecture m'a vraiment posé cette question et je vous la pose, j'ai pas de réponse à ça. J'ai vraiment pas de réponse à ça. Je suis, je pense, alors pas du tout une grande fan de cette entrée à la cuisine et tout l'outil, comme je vous le disais, mais ma passion pour les mythes littéraires, et je vous rappelle que moi j'ai fait mon doctorat sur Satan. Bon, voilà, je suis très cliente de ce genre de mythe. Alors moi, j'aime quand ça reste dans le domaine du fictionnel pur, et non quand ça commence à devenir réel. Mais voilà, hein, j'ai la gravure de Barbe Bleue dans mon salon, ça n'est pas anodin. J'ai aussi une aquarelle de Satan. Enfin, il y a une fascination, et je fais ce podcast. Je pense que voilà, vous avez compris. Mais ma question est pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans ? Alors ça devient très psychologique, psychanalytique, ça c'est clair, voilà, c'est ce que pour moi, ce que posait cette réécriture, et ce que la Barbe Bleue suscite chez l'être humain. Si on a besoin de détruire le mythe, c'est qu'on voit une problématique dans le mythe en fait. Sinon la réécriture telle que Anatole France nous la propose n'existerait pas. Donc voilà. C'était un épisode un peu étrange et j'espère que vous saurez le saisir pour dialoguer avec moi à travers les commentaires, les messages privés. Faites-vous plaisir, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais sûrement dans 2 semaines, pour un nouvel épisode. Et ce sera le dernier épisode de La Barbe Bleue et ma question sera... Qu'est-ce que la Barbe Bleue dans des textes qui ne sont pas sur la Barbe Bleue ? C'est-à-dire que là, on a vu des Barbes Bleues, des textes vraiment sur le sujet. Mais quel est l'impact d'une telle figure dans la littérature ? Et donc, on s'intéressera à 3 autrices, 3 femmes. Ce sont bien évidemment les sœurs Brontë. On parlera de ces 3 sœurs et on parlera de leur version des Barbes Bleues à travers 3 textes. Jane Eyre de Charlotte Brontë, Les Hauts d'Hurlevent de Emily Brontë, et celui que je suis en train de relire pour cet épisode parce que c'est mon préféré, donc clairement j'ai saisi l'occasion, c'est La Dame du Manoir de Whitefell Hall de Anne Brontë, qu'on connaît beaucoup moins. Moi je préfère Anne Brontë à Charlotte et à Emily. Emily en poésie insurpassable, très clairement, mais en termes de roman, je suis plus team Anne Brontë que Charlotte ou Emily. J'espère que vous pourrez découvrir Anne si vous ne la connaissiez pas. Et on parlera de la Barbe Bleue dans ces 3 œuvres. Vous me voyez venir, hein, c'est le moment de sortir vos ex-femmes du grenier. On est parti. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode. Ciao !